Mon courage, que ferai-je sans toi? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance, et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, viens faire de ma croix, dans ma tenette immense, que ferais-je sans toi? Dieu notre Père, au soir de cette journée, nos cœurs sont pleins de reconnaissance pour toutes les délivrances que tu nous as accordées au cours de ces heures. Oui, chacune de ces journées, nous avons voulu les passer sous ton regard. Et aussi, à chaque heure, nous regardions à toi pour que tu nous préserves les uns et les autres de tout danger. Nous savons bien que des ennemis sont dans l'ombre, rôdent autour de nous. Quelquefois, nous pourrions être accablés par le nombre, mais tu es plus puissant que tous. Et tu es venu, Seigneur Jésus, pour détruire les œuvres du diable, pour mettre dans l'impuissance l'adversaire qui rôde autour de nous, cherchant qui il pourrait dévorer. Nous te remercions de nous avoir amenés à ce dimanche soir de Pentecôte sans qu'il y ait eu d'accident. et nous te remercions aussi de ce que nous croyons que tous ont pu rentrer sains et saufs de ces journées de travail. Nous implorons maintenant ta miséricorde sur ces derniers moments et nous te demandons de nous bénir encore une fois par ta parole en Jésus-Christ et pour sa seule gloire. Amen.
Amen.
Eh bien, nous avons réalisé dans ces journées que Dieu était vraiment avec nous. Et c'est un de ses noms, comme nous l'avons rappelé, Emmanuel. Dieu avec nous. Et nos cœurs ont désiré répondre à cet amour en disant de notre côté, Seigneur, nous voulons être avec toi. Puisque tu es avec nous, nous voulons être avec toi. Vivre dans le sentiment de ta présence, comme les disciples ont eu l'occasion de le faire pendant ces 3 années où le Seigneur les ayant choisis, ils ont été à son école et c'est à cette école qu'ils ont appris tout ce qu'ils nous ont apporté dans les évangiles, comme aussi dans les épîtres, puisque vous savez que notre cher Sauveur n'a rien écrit, et que ce que nous savons de lui, ce sont ces hommes qu'il a appelés à le suivre, qui ont obéi et qui ont répondu à son amour, et qui sont devenus des témoins. Oui, ils ont été jusqu'au bout. On l'a vu sur le tablier de notre sœur. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont allés jusqu'au bout. C'est quand même merveilleux de penser à cela. Car un jour, ils ont été appelés. Un jour, ils l'ont rencontré. Si je pense à Marie-Madeleine, elle souffrait de 7 démons, elle a rencontré un jour Jésus. Personne n'avait pu lui faire du bien. Et puis, ça a été pour elle la délivrance. Depuis ce moment-là, elle l'a suivi. De la Galilée. Et vous la retrouvez où, 3 ans plus tard? Au pied de la croix. Quelle fidélité! Et puis, il est dit que Marie-Madeleine, comme aussi Suzanne et Jeanne, c'est 3 noms de femmes assistaient le Seigneur de leur bien. C'est fantastique. Une fois qu'elles l'ont eu rencontré, elles vivaient pour qui? Pas pour quelque chose, pour quelqu'un. Et tout ce qu'elles avaient, elles l'ont mis pour le Seigneur. Elles l'assistaient de leur bien. Bien, nous avons eu des sœurs qui ont voulu aussi assister le Seigneur, parce que c'était un travail pour le Seigneur, que vous avez accompli. C'est pas un travail pour une communauté, un travail pour des hommes, c'est un travail pour le Seigneur et tous pourront en bénéficier. Et ces personnes qui ont réalisé que Dieu était avec elles, elles ont compris bien nous maintenant que nous avons joui d'une telle présence, on l'a chanté, n'est-ce pas? Quelque chose au sujet de sa présence, bien nous voulons être avec lui. Puis, ensuite, nous sommes allés plus loin, nous avons vu que le Seigneur était pour nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur a été pour nous aussi dans ces journées. Il nous avait donné son salut, mais il nous a donné aussi la délivrance. À chaque heure, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Il y a eu des dangers que nous avons frôlés les uns et les autres, dont nous ne nous sommes peut-être pas aperçus, mais le Seigneur nous a gardés. C'est si facile qu'il y ait un accident dans un temps de travail. Le Seigneur a été pour nous. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Seigneur a été pour nous. Mais vous savez, il faut quand même faire très attention, parce que on pourrait, puisque nous sommes des évangéliques et remplis de versets bibliques, et puis toujours nous dire, il ne nous arrivera rien, n'est-ce pas? On est au Seigneur, oui. Mais si Satan a pu tenter Jésus, il faut bien se mettre aussi dans l'idée qu'il pourrait aussi nous tenter. Et les tentations qui étaient les plus fortes pour Jésus, c'est quand Satan lui a cité des versets bibliques. Et c'est cela qui est terrible. On est rempli de la parole, on aime la parole, on a mémorisé des versets, et puis peut-être on se dit, eh bien voilà, quoi que nous fassions, que nous soyons, le Seigneur va nous garder. Mais il ne faut pas sortir de cette dépendance. Je me souviens, je l'ai peut-être déjà dit une fois ici, que j'ai pu me trouver dans un avion avec quelqu'un, et son avion n'était pas du tout au point, et moi je n'étais vraiment pas rassuré. Mais lui essayait de me rassurer, pas parce que j'avais peur, c'est pas ça, j'avais pas peur de mourir, mais je savais que son avion n'était pas au point du tout. Et puis il chantait, non jamais tout seul, et c'est mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul, etc. Eh bien, c'était plutôt irritant qu'apaisant. C'est pas ça que je savais qu'on aurait dû faire quelque chose. Eh bien, on dit, oh, mais on va pour annoncer l'évangile. Oui, alors on aurait dit, ces deux martyrs, là, qui sont allés pour annoncer l'évangile, puis il leur est arrivé un accident, n'est-ce pas? On aurait fait quelques petits articles dans les journaux évangéliques pour dire que nous avions été jusqu'au bout. Attention! Mais on avait été tenté Dieu, parce qu'un jour ce fameux avion il est tombé. Parce que justement, il y a des soins à donner à, même à la mécanique. Il est dit le juste, il prend soin de sa bête. Et alors, nous ne voyageons peut-être plus avec des bêtes, mais nous avons une automobile. Si on ne la soigne pas, si on ne vérifie pas certaines choses, et qu'on a un accident ou qu'on provoque un accident, parce que c'est aussi cela, hein, ne pas provoquer. Il ne faut pas toujours dire, on est au Seigneur, il ne peut rien nous arriver. Souvenez-vous d'une chose, le Seigneur était sur la terre, et le diable a osé lui dire, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, jette-toi du haut du temple, il t'arrivera rien. C'est vrai. C'est vrai qu'il est écrit ça. Et il a dit, il est écrit, les anges te garderont, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors Jésus dit, oui, c'est vrai ce que tu dis, hein. Mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Alors, je crois justement que la tactique du diable, c'est de nous isoler un verset pour nous faire peut-être aller au-delà de certaines de nos possibilités. Et nous sommes très reconnaissants que Dieu ait donné la sagesse à Josaphat de ne pas aller plus loin. Et, je l'ai béni, mais je ne me suis pas préparé. J'ai même eu être là-bas, j'avais l'air de ne rien faire, mais au moins je pouvais prier, parce que j'aime mieux le voir assis dans sa chaise et souriant que de devoir dire à François, écoute François, voilà, il est arrivé quelque chose. Non, quand il y a un danger et que quelqu'un est en danger, nous sommes là aussi pour prier les uns pour les autres, puis demander aussi que le Seigneur donne la sagesse et de ne pas dépasser les forces, parce qu'il m'inquiétait un petit peu, puisqu'on peut partager, c'est que j'étais quand même fatigué. Si Aubu était brûlé, tu étais quand même un peu fatigué. Alors, faire un travail dans la fatigue, ça aurait pu manquer quelque chose aussi. Hein. Alors, je crois qu'il faut être limité. Alors, moi, je m'exhorte moi-même, je ne m'en vais pas vous crever. Alors, je vais vous laisser aller vous reposer. Ma femme me l'a bien recommandé de ne pas être long. Et il est dit quelquefois, écoute la voix de ta femme. Dans ce qu'elle t'a dit, hein? Il y en a. Non, mais
Et là aussi, il faut dépendre du Seigneur. Est-ce que ça vient simplement des sentiments, ou bien est-ce que ça vient d'une chose raisonnable? Je crois que c'est raisonnable, quelquefois, une femme a raison. Peut-être pas toujours, mais bien souvent. Alors maintenant, on peut bénir le Seigneur, parce qu'il a été avec nous, et nous nous avons dit, nous voulons être avec lui. Il a été pour nous, et nous voulons dire ce soir, nous voulons être pour lui. Nous l'avons déjà dit et souligné. Et puis, ce matin, eh bien, nous sommes occupés de cette merveilleuse événement, de ce merveilleux événement. La Pentecôte s'est accomplie. La promesse qui avait été faite au prophète que Dieu ne voulait pas rester dans cette lumière inaccessible. Job disait, oh, si je pouvais te trouver, si je pouvais parvenir là où tu es parti. Et puis, Esaïe disait, oh, si tu fondais les cieux, si tu voulais descendre. Eh bien, Dieu a répondu à ce besoin d'un arabe, parce que Job était un arabe. Cet arabe qui voulait aller trouver Dieu pour avoir une explication, parce qu'il n'avait pas le livre de Job, comme nous, pour savoir pourquoi il était éprouvé. Lui ne savait rien, il était dans la nuit. Et il se posait des questions. Et ses amis qui le voyaient dans une telle souffrance, eh bien, ils étaient prêts à le juger, à se dire, c'est pas possible qu'il n'ait pas un péché caché en lui. Il se trompait complètement, mais il n'avait pas le livre de Job pour connaître le secret. Eh bien, le Seigneur, oui, il a été pour nous et nous voulons être pour lui. Il a été plus loin encore. Il a voulu être en nous. À cette prière de ces hommes arabes ou juifs qui voulaient le contact de Dieu, eh bien, Dieu a répondu, mais pas seulement d'être avec eux, d'être pour eux, mais d'être en nous. Et c'est cela la Pentecôte. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit est venu faire son habitation dans nos cœurs. De sorte que le vrai temple, ça n'a pas été le tabernacle dans le désert, ça n'a pas été le temple de Salomon, ça n'a pas été le temple qui a été reconstruit par Zorobabel et Josué après la captivité. Ça n'a pas été le temple qu'avait restauré Hérode et dans lequel le Seigneur est venu lui-même parler à l'âge de 12 ans au docteur. Le vrai temple où il a si souvent prêché, où on a voulu l'arrêter, eh bien, ce temple qui a été détruit en l'an 70, c'était pas le vrai temple de Dieu. Cette maison, disait Jésus, qui était la maison de mon Père, qu'est-ce que vous en avez fait? Une taverne de voleurs. Hein. Mais la pensée de Dieu, c'était d'habiter, non pas dans une maison, mais dans un temple de chair, dans nos cœurs. Et vous êtes individuellement le et le Saint-Esprit nous habite. Et le Saint-Esprit, puisqu'il est appelé le Consolateur, un autre Consolateur, c'est donc une personne. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance seulement. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance seulement. Le Saint-Esprit est une personne. Et quelle est cette personne? Eh bien, c'est Dieu en nous. Christ en nous, parce que Christ est Dieu. Et qui est venu habiter en nous. Alors, étant une personne, il est très sensible, et quand vous lisez alors les actes des apôtres, qu'est-ce qu'il a pu se passer au soir de la Pentecôte? Ces 120 qui avaient tous reçu le Saint-Esprit, la personne de Dieu en eux, eh bien, ils ont témoigné avec puissance. Et puis l'apôtre Pierre a prêché, et qu'est-ce qui s'est produit? Les âmes se sont converties. Elles se sont vraiment données au Seigneur, et Pierre leur a simplement dit, ce qu'ils avaient à faire. Vous connaissez l'évangile, le plan du salut, il leur a révélé. Et ceux qui ont cru ont été baptisés. Et dans ce soir de Pentecôte, combien y avait-il de convertis? 3 000. C'est une soirée, cela. 3 000 conversions. Et ils ont persévéré dans ces 4 choses que vous lisez au chapitre 2. Les premiers croyants remplis du Saint-Esprit persévéraient dans la doctrine des apôtres. Il fallait qu'ils soient enseignés. Et quelle était la doctrine des apôtres par le Saint-Esprit? Qui les avait enseignés? C'était Jésus. Alors qu'est-ce qu'ils transmettaient? Les paroles de Jésus. Et comment s'en souvenaient-ils? Quel était le miracle? Eux qui étaient si oublieux. C'était le Saint-Esprit qui leur rappelait les choses que le Seigneur leur avait dit. C'est pourquoi j'aime à souligner, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, le Saint-Esprit devient votre mémoire. Et c'est cela qui est merveilleux. Ne dites pas, c'était vrai naturellement, nous n'avons pas de mémoire. Mais si vous avez le Seigneur, par son esprit, peut vous rappeler les choses que vous avez lues. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, comme excuse, moi je ne peux pas lire la Bible, j'ai pas de mémoire, je retiens rien. Lisez quand même. Et même pendant le temps où vous lisez la parole, eh bien, c'est comme une purification, parce que l'action de la parole, c'est de nous laver, de nous purifier dans nos pensées, tandis que d'autres lectures ne vous purifient pas du tout. Eh bien, que la grâce du Seigneur soit avec nous et que nous puissions vraiment éprouver que, depuis la Pentecôte, le Seigneur n'est pas au fond du ciel, il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant, mais dire simplement il est au ciel, non, il est dans notre cœur, il est dans notre vie. C'est cela la présence du Saint-Esprit en nous. Et si nous ne l'avons pas, eh bien nous avons alors que la loi et la chair qui est en nous, qui fait des efforts, mais qui manifeste constamment sa faiblesse. La chair est incurable. Et le Saint-Esprit n'améliore pas la chair. Il prend la place de la chair. La chair est là, mais ce n'est plus la chair qui nous domine, c'est le Saint-Esprit. De sorte que marcher par l'Esprit, c'était le thème que je voulais traiter ce soir. Comment marcher par l'Esprit pour ne plus accomplir les œuvres de la chair? Parce que depuis notre conversion, la chair, nous l'avons encore. Et le péché, comme je l'ai souligné ce matin, il est encore en nous. Le péché est en nous. Et il suffit de peu de choses pour qu'il se manifeste. Mais quand vous voyez que le péché est en vous, eh bien, vous regardez au Seigneur et vous dites, je ne sais pas parce que le péché est en moi que je suis perdu. J'ai accepté le Sauveur. Mais alors, vous n'êtes plus sous la direction de la chair qui vous pousse à pécher, oui, elle vous pousse à pécher, elle vous pousse à céder. Mais vous n'êtes plus débiteur à la chair pour vivre selon la chair. La chair, vous l'avez condamnée. Comme vous avez renoncé au péché, vous condamnez aussi la chair. Vous ne vous attendez pas à des forces surhumaines pour vaincre la tentation. C'est pourquoi nous ne devons pas tenter le Seigneur. Nous ne devons pas penser, oh, de toute façon, nous serons gardés. Non. Donc, nous devons être sages, être sobres, ne pas dépasser notre mesure, rendre grâce pour toutes choses, et prendre comme modèle, puisque le Christ est en nous, la vie du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur n'a pas voulu faire. Il y a des choses qu'il n'a pas faites. Et il n'a jamais employé sa puissance pour se soulager, pour se délivrer lui-même. Il a toujours employé sa puissance en vue du bien des autres, mais jamais pour lui-même. Quand il a eu faim, il a eu faim. Quand le diable lui a dit, mais puisque tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, est-ce qu'il l'a fait? Non.
parce qu'il ne voulait pas sortir de sa dépendance de son père, qui avait dit que c'était lui qui nourrissait les oiseaux du ciel, qui revêtait les lys des champs, que nous les hommes, nous valons beaucoup mieux qu'eux. Eh bien, Jésus, dans sa situation d'homme, s'est complètement identifié à nous et il s'est attendu à son père. Et quand les tentations étaient vaincues, comme il avait faim, qu'est-ce qui ont servi le Seigneur? C'est les anges. Et les anges le servirent. Si nous savons résister à la tentation et attendre la délivrance du Seigneur, c'est toujours plus et mieux que ce que nous pouvions espérer et penser. Ça, vous pouvez en être sûr. Alors, n'ayons pas peur de passer par certaines tentations. Ce sont des épreuves, mais c'est une épreuve de foi. Mais au lieu de nous délivrer par des moyens humains ou par nos propres ressources, nous disons, je m'attends à toi, Seigneur. Et vous savez, on fait des expériences merveilleuses, et après on se dit, mais tu avais pensé t'en sortir toi-même de cette manière, heureusement tu n'as pas essayé, et que tu t'es attendu au Seigneur, parce que c'est tellement plus merveilleux. Quand nous savons attendre l'heure de Dieu, il y a la délivrance. Alors nous voulons rester en lui. Et comment savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit? Bien, le Saint-Esprit nous donne une conviction. Pour connaître la volonté de Dieu, eh bien, soyez sensibles à la voix intérieure de l'Esprit. Une des manifestations du Saint-Esprit, c'est de vous donner une conviction. Si vous n'avez pas la conviction, ne bougez pas. Ne faites rien. Parce que celui qui agit sans conviction, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Agir sans avoir une conviction, c'est pécher. Mais sachez attendre. Et quand vous aurez cette conviction intérieure, eh bien, vous allez de l'avant. Mais dans une foi totale. Et vous ne reculez pas. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Je l'ai dit ça dans Luc chapitre 9. Vous êtes convaincu que c'est, vous êtes dans le chemin du Seigneur, et bien vous marchez. Il y en a qui vous disent, mais il faut attendre, c'est les circonstances qui doivent nous conduire. Non. Je crois que très souvent, les circonstances sont au fond une épreuve. Le Seigneur nous place dans certaines circonstances. Il permet que nous traversions certaines circonstances pour voir quelle attitude nous aurons dans ces circonstances. Et dans l'histoire de Job, même comme nous allons le voir, eh bien, Dieu a permis que Job se trouve dans une certaine situation pour manifester sa puissance. C'est quelque chose, hein. Qui est-ce qui a attiré la sanction du diable sur Job? C'est Dieu? Qu'est-ce qui te prend pas tant là? Et qu'est-ce que tu fais ici? De courir ça et là, sur la terre, et de nous promener. Il n'avait pas besoin, Dieu n'avait pas besoin d'y parler de Job. Et c'est Dieu qui dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui. Alors évidemment, Satan prête l'oreille. Hein. Bien sûr qu'il a vu Job. Mais voilà que, au fond, Dieu lui désigne Job. Et c'est ce Job qui sera éprouvé parce que Satan ne manque pas une occasion. Il ne te désigne pas pour rien qu'il te craint. Tu l'as béni de toute manière. Alors voilà. Dieu relève le défi et permet que Job soit éprouvé. Mais Dieu n'aurait pas éprouvé un autre que Job. Il y a des gens qui n'auront jamais ces épreuves-là, mais parce que Dieu savait que Job pouvait tenir. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Pourtant, il y a eu des moments où Job a frisé presque la révolte. Il dit encore aujourd'hui, ma plainte est amère. La main qui s'appesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. C'est là qu'il dit, oh, si je pouvais le trouver, si je pouvais parvenir où il est assis. Mais le Seigneur a permis que Satan soit confondu
et que Job soit entièrement justifié et montre que s'il aimait Dieu, ce n'était pas par intérêt, mais c'était vraiment par amour, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Alors, pour marcher selon l'esprit, eh bien, ayez une conviction et ne vous laissez pas guider simplement par les circonstances. Je dirais, une fois que vous avez pris la décision et que vous marchez dans le chemin de la foi, Dieu permet que les circonstances vous confirment que vous êtes dans le chemin. Mais ce ne sont pas les circonstances qui doivent vous donner, vous faire prendre une décision. C'est le Saint-Esprit. Et je crois que nous devrions avoir une dépendance beaucoup plus profonde, plus personnelle, avec le Seigneur, pour que nous ayons une vision, que nous obéissions à une vision intérieure, à une conviction, à une parole que Dieu nous donne, alors nous fonçons, alors nous marchons, et nous ne sommes pas confondus. Ce qui m'effraie, c'est de voir que tant de gens disent qu'ils sont conduits par Dieu, puis tout d'un coup, c'est l'échec. Or, Dieu n'est pas le Dieu des échecs. C'est pas vrai. C'est notre volonté qui s'est manifestée. Où on a écouté les conseils de vieux prophètes. Que je ne sois pas un vieux prophète. Parce que, dans l'histoire, vous connaissez l'histoire du vieux prophète, hein, il y avait un prophète de Juda qui avait reçu un ordre très précis d'aller à tel lieu, à Bethel, et de prophétiser. Et puis Dieu lui avait dit, tu ne t'arrêteras pas, tu ne prendras pas de nourriture, tu retourneras par un autre chemin, etc., que celui par lequel tu es venu. Puis voilà qu'il va, il accomplit sa mission, il est vraiment dans la dépendance de Dieu, puis il s'en retourne. Il refuse l'invitation du roi idolâtre, mais voilà qu'un vieux prophète vient sur son chemin et puis lui dit de venir avec lui, de s'arrêter, de manger, de prendre quelque chose dans sa maison. Et puis il lui dit non, je ne peux pas, parce que Dieu m'a dit cela. Et je veux obéir. Et lui dit, mais moi aussi je suis prophète. Et un ange du Seigneur m'a parlé. Et il a suivi le vieux prophète. Et vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Le lion l'a tué quand il est retourné. Vous n'avez pas à suivre ce que les autres vous disent. Vous avez à suivre ce que le Seigneur vous a montré. Alors, ne vous laissez pas détourner d'une conviction. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en nous, il nous donne des convictions. Et on marche non plus selon la chair. Parce que souvent, ceux qui nous parlent, ils ont peut-être de bonnes intentions, mais ils sont peut-être très charnels. Et alors, c'est pas eux qui peuvent voir la volonté de Dieu pour vous. Si j'avais écouté certains de mes frères, et renommés, ils sont auprès du Seigneur maintenant, alors ils sont d'accord, mais qui me disaient, le Seigneur nous a montré que vous étiez l'homme qu'il nous faut pour ceci. Et puis une autre, le Seigneur m'a affirmé que vous étiez l'homme de l'Afrique. Alors donc je serai en Afrique, je serai pas ici. Ça ne veut pas dire que j'étais en Afrique, mais j'étais l'homme, soi-disant, pour l'Afrique. Le Seigneur le leur avait montré. Il y avait 5 signatures pour que je dirige une autre maison dans un autre coin du monde. Moi, il ne me l'avait pas montré, le Seigneur. C'était le choix d'homme qui avait de l'affection pour moi, qui reconnaissait que le Seigneur m'avait appelé, qui reconnaissait mon appel. Mais c'est pas eux qui pouvaient me diriger. Et vous savez, quelquefois c'est tragique, un jour, on est venu me dire, et c'est ça la présence du Saint-Esprit en vous, mes enfants avaient grandi, j'habitais depuis 6 années dans une ville sur la montagne, où je soignais, où je visitais les malades, j'avais un ministère d'aumônier parmi les malades, mais notre logement était trop petit. Et j'avais la conviction que le Seigneur voulait maintenant que je quitte cet endroit pour... Au lieu de mettre mes enfants aux études ailleurs, je voulais que mes enfants, que Dieu m'avait donné, ils puissent être à la maison quand même. Que je sois là pour les surveiller aussi dans leurs études, tout en ayant un ministère. Et puis voilà que quelque temps, alors que je devais rendre la maison, je reçois un téléphone, on me dit, asseye-toi sur une chaise, on a une nouvelle formidable à t'apporter. Dieu nous a mis à cœur de t'acheter la maison à côté du logement où tu te trouves. Et c'était pas une petite somme. C'était 100 000 francs suisses. Nous t'achetons cette maison pour que tu puisses rester à Les Uns, parce qu'il y a un ministère qui est pour les uns, pour les malades. Qu'est-ce que vous auriez dit? Mais c'est merveilleux. Mais c'est le Seigneur qui répond à notre prière, parce que il nous fallait un logement, il nous faut bien un logement. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, je peux pas dire non comme ça. J'écoute. Je n'ai pas l'habitude d'accepter quoi que ce soit sans avoir prié. J'ai prié et le Seigneur a dit non, 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 non. Alors qu'est-ce que je voulais dire le lendemain? Quand on vous dit le Seigneur nous a montré, c'était des gens que j'estimais. Non. Maintenant quand j'y pense, comme je bénis le Seigneur d'avoir su dire non. Mais ça se renouvelle, ça se répète souvent, des choses comme ça, où des gens bien intentionnés viennent nous dire, c'est ça. Vous devez avoir affaire avec le Seigneur. Et si le Seigneur vous a donné une conviction, et que moi je vienne vous dire tout autrement, ne me croyez pas. Vous pouvez peut-être me demander conseil. J'essayerai de voir si vous avez une conviction. Je prierai, oui. Mais le Seigneur ne peut pas me dire à moi le contraire de ce qu'il nous a dit. Il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y a qu'un seul Esprit. Et ça, je l'ai réalisé depuis ma jeunesse. Que même si on vous dit, le Saint-Esprit me dit cela à moi, pour vous, croyez-vous que je serais avec Eva si j'avais écouté une vieille prophétesse des Cévennes? Les Cévennes, c'est la grande patrie des Huguenots, dont je suis originaire, en France. Elle m'a dit, d'une voix extraordinairement forte, c'est une poétesse et tout, une femme de 75 ans, quand j'ai su que vous alliez fonder un nouveau foyer, le Saint-Esprit a protesté dans mon cœur. Ben vous savez, pour ne pas écrire à celle qui devait devenir ma femme, la mère de mes enfants, pour laquelle je bénis Dieu, eh bien, il y avait un pasteur qui était à côté de moi, un pasteur protestant, et cette femme qui était très connue, le Saint-Esprit a protesté en moi. Un homme comme vous, vous ne devez pas vous remarier. Quelqu'un a toute la peine. Non, mais vous avez ces choses-là, et vous ne vous moquez pas de ces gens-là. Mais vous devez quand même obéir à ce que le Seigneur vous montre. On n'aurait pas eu les camarades non plus. On n'aurait pas fait connaissance ici. Quoique depuis plusieurs années, avant même le départ de ma première femme, eh bien, le Canada avait été sur mon cœur plusieurs fois. Il y a comme une préparation. Mais, voyez-vous, dans toutes ces décisions, que ce soit un pays ou un autre où nous devions habiter, c'est le Seigneur qui doit nous conduire. Et je crois même aussi, même si vous habitez dans la même ville, pour votre déménagement, parce que je vois que les Québécois déménagent souvent, hein. Eh bien, là aussi, soyez conduits par le Seigneur. Et alors, après les circonstances, viendront vous confirmer que c'était bien là sa voix. Je vous ai dit que nous n'allongerions pas. J'ai essayé de vous donner quelques questions pratiques. Mais, s'il y a une souffrance ici dans votre cœur, vous sentez que le Saint-Esprit est contristé, j'en ai déjà parlé ce matin. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est une personne très sensible. Et si je pense autrement que lui pense, il y a une souffrance. Si je dis des choses que lui ne dirait pas, il y a une souffrance. Alors, devenons de ces êtres qui sont vraiment habités. Laissons le Seigneur regarder par nos yeux, écouter par nos oreilles, parler par nos jambes, servir par nos mains, se déplacer par nos pieds. Le Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Alors, si lui veut être en nous, nous nous voulons être en lui. Dieu notre Père, nous te remercions de ces derniers moments. Et nous voulons te prier que tu les prolonges toi-même dans l'éveil de cette nuit, même au sein de notre sommeil, que tu nous parles et que ce simple partage que nous avons eu à la fin de cette journée de travail ait une prolongation dans notre vie, que nous puissions nous souvenir peut-être d'une parole qui nous a frappés et qui deviendra dans nos propres circonstances une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Nous avons besoin d'être dirigés par toi en toutes choses. Nous nous recommandons à toi pour cette nuit et nous te demandons de préparer la journée de demain et les tâches que nous aurons à accomplir, que ce soit celles que tu veux qu'ils soient faites. Tu sais que nous ne pouvons peut-être pas tout faire, eh bien, donne les priorités que tu voudras. Et en particulier, accompagne notre cher frère qui retourne à Val-David, Silvio et Pascal. Merci pour leurs travaux. Merci de nous les avoir donnés, soit avec eux, comme aussi avec ceux qui peut-être doivent nous quitter encore, soit que tu connais par leur nom. Étends tes mains bénissantes et guérissantes sur ceux qui souffrent et donne-nous ta paix. En Jésus. Amen. Amen.